Amen. Dieu est bon, on est d'accord avec ça? Eh oui, hein. Dieu est bon, il ne change pas, il reste le même. Et nous voulons plus que jamais nous attacher à lui. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu et on va partager ensemble voilà, quelques sujets. Alors le titre, on donne des titres aux méditations, au partage de la parole, c'est « Des prédicateurs et leurs messages ». Nous allons voir qu'il y a des personnes voilà, qui ont les capacités de pouvoir partager la parole de Dieu. Mais puis on retrouve dans la Bible que certaines personnes, en fait, Dieu les a appelées pour qu'ils puissent publier, annoncer un message et un thème principalement. On connaît des hommes de Dieu qui partagent la parole de Dieu, des pasteurs, donc ils sont pasteurs dans leur église, et puis ils ont eux aussi, voilà, à un moment donné, voilà, une sensibilité, un thème particulier, et quand ils l'apportent, alors on s'aperçoit que voilà, c'est un thème qu'ils portent dans leur cœur, et quand ils le donnent à l'église, alors il y a un fruit, il y a une onction particulière, et je crois qu'encore dans la Bible, évidemment, il y a donc certains hommes ici, on va les voir ensemble, qui à un moment donné, donc certains prédicateurs ont apporté des messages messages spéciaux pour une situation spéciale. Quand on parle de prédicateur, un prédicateur, c'est quoi? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui publie un message, donc avec cette action de pouvoir le crier. Et quand on parle de crier, ça n'a rien à voir avec le volume sonore. Hein. Des fois, on peut confondre, mais c'est un cri qui vient du cœur pour apporter un message qui vient de Dieu. C'est publier donc ce message qui vient directement du ciel, et on veut bénir le Seigneur pour les prédicateurs, les pasteurs qui apportent, ceux qui partagent la parole de Dieu. Voilà, il y a l'homme de Dieu qui a pu dire à un moment donné, donc l'apôtre Paul, on peut le considérer comme l'homme de Dieu. Oui, hein. On le considère comme un homme de Dieu. Il a dit, priez pour moi. Alors si l'apôtre Paul a pu le dire, ben, nous tous qui sommes ici, voilà quelques-uns, où on partage la parole de Dieu, priez pour nous. Parce qu'on veut apporter la parole de Dieu telle qu'elle. Hein. On ne veut pas ni brosser dans le sens du poil, ni être dur parce qu'à un moment donné, on a mal dormi, on a passé une mauvaise semaine. C'est pas ça. Hein. C'est apporter le message à propos. Et c'est ce qu'on fait, hein, finalement, dans la transparence, dans l'honnêteté. Seigneur, voilà, donne-nous ta pensée pour que ton peuple entende ce que toi, tu veux dire. Alléluia. Le premier de ces personnages qui sont arrivés avec un message, c'est Enoch. Enoch, lui, donc c'est un personnage quand même assez particulier. On le retrouve évidemment dans le livre de la Genèse. Mais ici, on va voir voilà, un récapitulatif un peu de Jude. Il va expliquer pourquoi, quelle était finalement l'essence de son message. Jude, chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, versets 14 et 15. Jude 1, 14 et 15. Alors, Enoch, lui, il a prêché le jugement. Alors, c'est un mot peut-être qui peut dire ben, jugement, Dieu est amour. Oui, mais à un moment donné, oui, Dieu juge, évidemment. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Il a raison pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alors ici, Jude, lui, il a une révélation spéciale, donc c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué dans quel état d'esprit est le thème de prédilection finalement de Enoch. Enoch, il a prêché le jugement, hein, on l'a lu ensemble, lui, il pourrait exercer un jugement contre tous. Tout d'abord, quand on regarde déjà ce que veut dire voilà, la signification de son nom, Enoch veut dire dédié et consacré. Finalement, c'est ce que nous sommes chacun d'entre nous. Hein. Et le Seigneur nous a appelés, c'est une grâce, hein, on l'a entendu ce matin dans plusieurs louanges, le Seigneur nous a appelés à un moment donné, et donc ensuite il nous a consacrés. Et le Seigneur veut que nous puissions nous trouver donc sur l'autel des sacrifices en nous consacrant complètement pour la seule gloire de son nom. Amen, que Dieu soit béni. Donc cet homme, Enoch, donc dédié, consacré, donc fils de Jéred et père de Méthusalem, que Dieu rappela dans les cieux sans qu'il connaisse la mort. Quand même, il y a une particularité qui est tellement importante. Hein. Lui, il a été pris, il n'a pas vu la mort, alors que c'est le chemin naturel de chaque être humain. Hein, chacun d'entre nous, on le verra tout à l'heure, hein, avec un autre qui a prêché également un thème un peu spécial. Et lui, donc il est monté au ciel, toute la vie d'Enoch, 365 ans. Il a marché avec le Seigneur et la Bible nous révèle un peu de son caractère. C'est un homme juste, pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu. Et finalement, cet homme, il nous ressemble par Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Ici, ce matin, il n'y a personne qui peut se présenter devant Dieu, personne qui peut rentrer dans la présence de Dieu s'il n'est justifié par Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut nous justifier. Alors c'est extraordinaire, hein, donc la justification, c'est un homme juste, un homme de foi, un homme de confiance. Et tout commence avec la confiance et la foi. On l'a vu avec quelques-uns cette semaine. Donc la foi, c'est également cette assurance. Je suis sûr de ces choses-là. Et c'est une conviction profonde qui vient dans mon cœur. Et cette foi, elle reste inébranlable. Alors, on peut traverser des moments difficiles, mais quand même, l'objectif, c'est de fixer les regards vers le Seigneur. Cet homme est donc un homme de foi, et c'était également, donc, il a été appelé particulièrement par le Seigneur. Il a vécu à une époque où l'humanité commençait à sombrer dans le chaos. Et au travers de cela, je découvre que, autant il y a le péché dans le monde environnant, autant le Seigneur va appeler donc des hommes à pouvoir annoncer le message de la bonne nouvelle. Hein, on l'a chanté, quelle bonne nouvelle, hein, quel avenir en Jésus-Christ. Et ce message, nous ne cessons finalement de le proclamer. Nous n'avons qu'un seul message à dire, hein, aux personnes qui sont perdues. C'est que Dieu les aime, qu'il a un plan pour leur vie, il désire les sauver. Les sauver de quoi? De la perdition. Parce que cette perdition, évidemment, si on ne donne pas notre cœur au Seigneur, elle est là. Le jugement, voilà, c'est peut-être un thème que, je ne sais pas si vous avez déjà fait une étude biblique personnelle sur le jugement. Dieu qui vient pour juger. Prêcher le jugement, ce n'est pas un message facile. On le voit au travers de beaucoup d'exemples de prophètes qui avaient reçu un message de la part de Dieu. C'est un message qui ne brossait pas dans le sens du poil, mais qui allait directement et qui dénonçait certaines choses. Et on sait comment cela a été reçu ou perçu. Je pense là à Jérémie. Jérémie, hein, donc tout jeune, il reçoit une parole de Dieu. Alors il est fébrile parce que lui, il se dit, mais Seigneur, c'est sûr que je dois apporter ce message. Le Seigneur lui confirme. Vous savez, quand que le Seigneur dépose quelque chose dans notre cœur, on a du mal. Hein. On essaie de repousser ces choses-là, on essaie de remettre. Mais quand le Seigneur met cette fameuse pression dans nos cœurs, on ne peut pas y réchapper. Puis à un moment donné, quand on est fidèle au Seigneur, donc on obéit, et c'est ce qu'il a fait. Jérémie a obéi, et quand il a obéi, et c'est là où, en fait, les problèmes ont commencé pour lui. Et comme quoi, ça nous montre que nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment être fidèle au message que le Seigneur nous donne, peu importe les conséquences. Et j'ai entendu ce matin également, dans les louanges, que nous avons cette possibilité ce matin, nous, de nous réunir ici, cette liberté de nous réunir en tant que peuple de Dieu pour louer et adorer le Seigneur dans certaines villes, dans certains pays, c'est impossible. S'ils le font, c'est au péril de leur vie. Et on dit ça pour en apprécier ces moments. Et ce matin, c'était des moments de qualité. Nous avons un libre accès au trône de la grâce et on ne s'est pas privé de venir dans sa présence. Mais le jugement, évidemment que la Bible en parle, parce que la Bible parle de beaucoup de sujets. Et on trouve dans Joël, chapitre 3, verset 12, avec cette exhortation, hein, lui-même, donc Joël, prophète Joël, il dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai, pourquoi faire ? Pour juger toutes les nations d'alentour. Ces choses sont arrivées du temps de Joël. Et ici, il vient avec un message. Ce message important. L'importance de se réveiller parce qu'à un moment donné, le Seigneur venait pour juger les nations d'alentour. C'est exactement pareil pour nous. On doit se réveiller. Et chaque chrétien, chaque croyant que nous sommes, nous devons nous réveiller, être réveillés. Et surtout pas, à un moment donné, ça nous arrive, et surtout avec l'âge, davantage, c'est-à-dire dans la nuit, on se réveille plusieurs fois. Il y a des choses qui fonctionnent plus trop bien, et puis on se réveille, et puis on va se recoucher. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir être éveillé, d'être éveillé, avoir un esprit éveillé pour discerner dans quel temps nous vivons, parce que le jour du jugement vient et on le voit au travers des événements. On le dit donc presque dimanche après dimanche, réunion après réunion, que le Seigneur revient pour chercher son peuple. Et à un moment donné, évidemment qu'il va y avoir donc ce jugement. Le jugement, pourquoi à ce moment-là, dans la période de Joël, on découvre que c'est à cause de la méchanceté. Et on sait que chaque être humain qui naît ici-bas sur Terre, la méchanceté est déjà au fond de son cœur. Mais grâce à Dieu qui, lui, vient, il se révèle à nous. Déjà, c'est un privilège immense. Et dans cette révélation, il prend notre cœur, il le change, il ne l'améliore pas. On sait que la bonne nouvelle, c'est une transformation complète et totale. Une transformation, pas une amélioration. Pas un pansement sur une jambe de bois, juste pour essayer d'essayer de régler certaines petite chose, mais le Seigneur vient nous transformer. Amen. Et Jérémie va faire cette déclaration également par rapport au cœur, par rapport au cœur méchant, la méchanceté du cœur de l'homme. Regardez, Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors il pose la question. Il vient avec le message donc du Seigneur. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Encore, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent que finalement, notre cœur aurait tendance à s'incliner vers le mal. Mais le Seigneur vient pour rectifier cela, pour transformer notre cœur, changer notre cœur. Vous connaissez ce passage d'Ézéchiel, changer notre cœur de pierre, pour nous donner un cœur de chair, qui est malléable. Et on s'aperçoit que tout au long de notre marche chrétienne, le Seigneur vient pour travailler notre cœur jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Amen. J'aimerais dire qu'il n'y a aucune échappatoire au jugement de Dieu. Personne ne pourra réchapper au jugement de Dieu. On l'a entendu, tellement sûr d'eux. En disant, mais moi, je pourrais dire en face à Dieu, quand je vais me retrouver devant lui, je vais lui dire les quatre vérités, puis on s'aperçoit que dans la Bible, tous ceux qui ont eu ne serait-ce qu'une certaine vision, ce n'était pas la plénitude de voir Dieu tel qu'il est, et déjà, donc, dans des visions, dans des rêves, ces hommes tombaient comme morts. Alors, se tenir dans la présence du Seigneur, je regardais, je suis tombé dessus cette semaine, un jour quelqu'un qui disait, je veux qu'on me prouve si Dieu est réel, s'il existe. Et cet homme disait, ok, est-ce que toi tu peux regarder le soleil, enlever tes lunettes et regarder le soleil. Alors, cette personne, il a essayé. Puis on ne peut pas regarder évidemment le soleil, on est vite ébloui. Et cette personne, elle dit, mais voilà, une des plus petites planètes, on ne peut pas le regarder. Qui on est, nous, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et lui dire les quatre vérités? Donc toute bouche sera fermée et le jugement, il est pour également, évidemment, le méchant. La Bible nous parle que ça sera un jour terrible. Certains remettent à plus tard. Je disais, ces derniers jours, vendredi à Albi, où j'ai pu apporter la parole, dans une réunion des baptêmes, il y avait deux baptêmes, et je disais que finalement, ce sera un jour terrible, personne ne pourra y réchapper. Et par contre, l'homme de Dieu, celui et celle, la femme de Dieu, qui aura fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, pour lui, ça sera un jour de joie. Alléluia. Amen. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Alléluia. Que celui donc qui ne possède pas Christ reste éveillé pour qu'il échappe à la colère à venir. Parce que Dieu, donc, il est en colère, hein, donc, parce, quand il voit tout ce qui se passe, Dieu est en colère. Alors le jugement, oui, on veut continuer de le prêcher. C'est ça, finalement, le véritable évangile. C'est de dire, finalement, que si on ne donne pas notre vie au Seigneur, alors on vient en jugement devant Dieu. Et tout ce qu'on aura pu dire, tout ce qu'on aura pu faire, eh bien, sera à nu et à découvert. Mais quand on est au Seigneur, ça sera un jour de joie. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc on voit ici que Enoch, c'était finalement son sujet de prédilection, ce jugement. Et puis, on continue avec un autre prédicateur dans des temps difficiles. Lui, c'est Noé, qui va prêcher la justice. Il va prêcher la justice. Et Hébreux, chapitre 11, verset 7, nous en donne un peu plus de détails. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, c'est le prédicateur de la justice. En fait, il est dit ici que c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'il ne voyait pas. Vous avez vu que la foi, elle amène un éclairage. Elle nous donne de voir correctement. Et aujourd'hui, plus que jamais, hein, on a besoin que la foi grandisse pour voir dans quelle période nous sommes. Et lui, donc, ce que va procurer cette révélation particulière, que le Seigneur va lui donner, c'est une crainte respectueuse. Que nous puissions grandir dans cette crainte respectueuse et de plus en plus, voilà, craindre le Seigneur et être dans ce respect de sa présence. Alléluia. Amen. Et donc, ce qu'il va faire, comme il va comprendre le message de Dieu, il va prêcher la justice et il va construire une arche, déjà pour sauver sa famille, et puis il va continuer à publier le même message. Mais les hommes endurcirent leur cœur et donc vont continuer d'endurcir leur cœur et s'éloigner encore davantage de Dieu. Quand on voit toutes les personnes qui étaient là, finalement, le peu de sauvés qu'il y a eu. Alors, je ne vais pas faire ici une analogie avec nous, hein, quand le Seigneur va venir pour nous sauver. La Bible dit qu'on sera très nombreux. Mais quand on pense à peut-être 7, 8 milliards de personnes sur Terre, combien seront sauvées? Là, aujourd'hui, même dans cette salle, j'ai aucune capacité de savoir qui sera sauvé ou pas. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, évidemment, c'est que nous puissions nous retrouver dans cette arche. Parce qu'il va y avoir un jour où la porte sera fermée par Dieu. Personne ne pourra l'ouvrir. Et c'est le temps de pouvoir se réveiller. Noé était un homme connu, hein, donc un homme de foi, encore une fois, juste devant Dieu, intègre, et avait le témoignage de Dieu sur sa vie. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5. Et 6, ce que Dieu a vu du temps de Noé, hein, c'est Dieu qui lui, voilà, il voit comment les personnes, les gens vivent finalement. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants et toute la journée dans leur cœur. Ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Alors c'est dans une autre version que je l'ai pris, c'est pour avoir voilà un éclairage voilà un peu plus large. Il dit que c'est à cause de leur cœur méchant, encore une fois. Le cœur est méchant, tortueux par-dessus tout. Ils ne pensent qu'à faire le mal. Alors le Seigneur, à un moment donné, donc, il va regretter d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Moi, quand je regarde la période que nous vivons, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le temps de Noé et nous, ce que l'on voit. Aujourd'hui, l'être humain, il s'enfonce de plus en plus dans le mal. Et Donc le Seigneur va l'avertir. Il va avertir Noé, dire, il faut que tu arrives avec un message. Et puis il y a certaines choses que donc Noé va pouvoir dire. Ce qu'il va faire, Noé, avec ce message, il va avertir ses concitoyens, les appelant à la repentance. Rien n'a changé. Hein? Sous le soleil, ça reste la même chose. On doit encore une fois avertir nos concitoyens et les appeler à la repentance. Ce qu'il va faire, c'est que Noé, quand il va recevoir ce message, cette révélation particulière, il va commencer à construire une arche. Des fois, la foi et la folie, c'est pas loin. Hein. Parce que il y a des petits détails que des fois on oublie. Il va construire une arche. Et la Bible nous dit que jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas plu sur la terre. Il ne savait pas ce que c'était la pluie. Mais il a cette révélation de la part du Seigneur que ça va arriver. Donc il met sa foi en action. Il ne se dit pas on verra au dernier moment, hein, si, je ne sais pas, on va couper un tronc, hein, et puis on va se jeter dessus, et puis construire un radeau. Il va prendre du temps. C'est sûr que les personnes qui le voyaient faire, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Mais c'est de la folie que de pouvoir construire un bateau. On ne sait pas quel est son projet. Il va continuer de prêcher ce message. Mais les hommes, les femmes ne vont pas l'écouter. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il s'est mis au travail en construisant l'arche. C'était le seul moyen pour être sauvé. Et aujourd'hui, l'Église, elle est là également, en tant que panneau de direction. Nous sommes simplement des panneaux de direction en disant, voilà, le jugement vient, on l'a vu avec Enoch, mais à un moment donné, donc le Seigneur va revenir, et ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous soyez perdus. Ce que Dieu veut, c'est vous sauver. Il veut nous sauver, chacun d'entre nous. Alléluia, ça c'est le plan de Dieu. Mais, c'est notre seul message, et on veut l'apporter de tout notre cœur. On voit également qu'il était en contraste avec sa génération qui était impie, hein, donc génération troublée. Elle était impie et corrompue, cette génération. Et lui, il amène un contraste. J'aime beaucoup. Hein. Aujourd'hui, au milieu de nous, tellement on ne sait pas qui est qui. Il faut qu'il y ait un contraste entre celui qui se dit du Seigneur et celui qui ne l'est pas dans notre marche de tous les jours, dans la sainteté, grandir, progresser, demander au Seigneur, délaisser certaines choses qui nous accaparent. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour quoi que ce soit. Souvent, on entend « j'ai pas le temps ». Est-ce que c'est réellement la vérité? Quand on s'aperçoit, et là, je m'inclus, parce qu'aujourd'hui, des fois, on ne peut pas y réchapper. Combien de temps on passe devant avec son téléphone? Combien de temps avec des activités? Certes, il n'y a pas de souci, mais le Seigneur veut la primauté du temps. C'est de s'approcher du Seigneur. Et je crois que plus que jamais, il y a besoin qu'il y ait un contraste. Et moi, j'ai remarqué, parce que je l'ai expérimenté, vous l'avez sûrement expérimenté au plus, on donne au Seigneur la primauté, dire Seigneur, on remet toute chose entre tes mains, ma vie, elle t'appartient. Alors, à partir de ce moment-là, le Seigneur va travailler notre cœur et on va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Eh oui, hein. On va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, hein, encore et toujours. C'est le but que nous poursuivons, afin qu'il y ait un contraste, qu'il n'y ait pas cette lumière tamisée, parce que le Seigneur nous a fait cette promesse et nous a dit, cet envoi, vous êtes la lumière du monde et on doit briller, ou dans les ténèbres. Alors là, c'est difficile, mais que le Seigneur va nous aider. Amen. Vous savez que le Seigneur, il nous a établis comme sentinelle. Et la sentinelle, elle va servir donc d'avertissement parce qu'un danger vient. Quand on parle de sentinelle, on pense à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis, c'est Dieu qui établit. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Voilà le message, finalement. Fils de l'homme, je t'établis. On voit ici que c'est le Seigneur qui lance un appel. Et nous, nous avons cet avantage, en tant que peuple, donc de la grâce, c'est que l'appel, il est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous lance cet appel. Il nous a établis pour avertir ce monde qui est dans la pleine perdition. Il dit, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Pour pouvoir annoncer un message, il faut d'abord l'écouter et l'accepter personnellement avant de pouvoir le donner. Donc, sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Que nous puissions continuer à être également ces prédicateurs de la justice, en disant que la seule justice qui va finalement subsister quand nous allons nous trouver devant le Seigneur, c'est la justice de Christ à laquelle nous sommes tous appelés. Amen. Ensuite, il y a un autre personnage. Lui, son thème de prédilection, il a commencé, il a prêché et il a dénoncé le péché. Cet homme, c'est Nathan. Nathan, lui, il a prêché le péché. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel ? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour donc en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen pour la parole. Mais ici, c'était pas facile pour Nathan. Nathan, il a une révélation donc directe de la part du Seigneur, et puis il doit aller voir le roi pour lui dire que le roi est dans une mauvaise direction, il est dans le péché, et qu'il faut absolument qu'il rétablisse cela. Donc un message pas facile à porter, mais il a du courage, il va le faire, au péril de sa vie finalement, mais il va le faire. Le péché aujourd'hui, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu, je ne sais pas, dans une émission, dans une vidéo ou je ne sais quoi d'autre, à la télé, le mot « péché ». Aujourd'hui, un péché, il est enfoui, hein. Mais en tout cas, c'est un mot qui est souvent mal compris. Nous, on va donner une définition du péché en mettant des catégories. Voilà, ça c'est un gros péché, un petit péché, un moyen péché, ça c'est pas trop grave, c'est nous-mêmes qui mettons finalement, qui fixons et qui plaçons la barre. Mais le Seigneur nous dit que finalement le péché c'est manquer le but, c'est être dans la transgression et dans la désobéissance à Dieu. Un mot souvent banalisé ou même moqué. Ce qu'il faut savoir c'est que le péché, il a cette particularité de nous envelopper facilement. Vous avez remarqué avec quelle facilité le péché peut nous envelopper. Si on ne veille pas, en quelques secondes, on peut tomber dans le péché en regardant certaines choses, en entendant certaines choses, en disant certaines choses et en faisant également certaines choses. Regardez Hébreux qui nous donne une définition du péché. Hébreux 12, verset 1. Nous donne aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et c'est cette seconde partie, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Ici, l'appel, il est à rejeter. Il y a des choses que l'on doit rejeter absolument. Le fardeau, tout à l'heure, on a fait l'introduction. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que ça vous avait déstabilisé. Jonathan a fait l'introduction sans rien dire, sans vous accueillir. Simplement, avec le chant, on a commencé. Certains continuaient leur discussion. Mais ce qui était très important, c'est de pouvoir venir devant le Seigneur et déposer les fardeaux. C'était ça, hein, le thème du chant. Et ce passage nous dit, rejetons tout fardeau. Le fardeau qui va nous freiner dans la marche. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est cette partie que je veux souligner. Le péché est là. Alors il nous faut le rejeter, et rejeter ce qui nous empêche d'avancer. Il faut non seulement le rejeter, mais le condamner et le délaisser. Parce que ça arrive, hein, à un moment donné, on bute et on chute sur la même, sur le même caillou, sur la même pierre. Mais à un moment donné, il faut qu'il puisse y avoir une réaction de notre part en condamnant fermement le péché et en ne surtout pas banaliser le péché. Tout le monde le fait. C'est comme ça. Je n'ai pas assez de force. Le Seigneur, c'est à cause du péché qu'il a donné son fils Jésus à la croix du calvaire. Ce qu'il avait de meilleur, il l'a donné pour chacun d'entre nous parce que à cause du péché. Alors le péché, il n'est pas à banaliser. Et il faut impérativement donc enlever ce manteau du péché, hein, il nous enveloppe, mais de nous revêtir des vêtements de la justice, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Veillons sur nos cœurs. On a connu des spécialistes qui plutôt que de veiller sur leur propre vie, surveiller celle des autres. Il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. C'est arrivé encore récemment. Hein. Je me souviens avec une personne avec qui je parlais, et puis on parlait des choses de Dieu. Et il semblait connaître son sujet. Et puis j'ai appris quelques temps après, il avait une vie, il faisait des choses pas glorieuse, qu'on ne peut pas nommer ici, du haut de l'estrade. Je dis, comme quoi, des fois, on peut essayer d'enfouir certaines choses. Ce matin, à un moment donné, ça a été dit aussi, au travers d'un message, de ne pas vivre sous une carapace, parce que le Seigneur voit tout. Il voit les cœurs, il voit ce que nous traversons, et il attend de chacun d'entre nous une part d'honnêteté. Parce que finalement, comme nous sommes enclins au péché, finalement, ce n'est pas trop le souci. Alors, évidemment, comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Ce n'est pas trop le souci, le péché. Mais c'est de réaliser, finalement, là, ce que nous faisons. Et si on le réalise, en fait, on va vouloir s'en sortir et dire, Seigneur, viens. Et le Seigneur va enlever ces scories, ce qui nous empêche d'aller plus loin. Dans le secret, le Seigneur nous voit, il nous connaît, et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui nous tire vers le bas. Et peut-être que ce matin, il y a besoin d'entendre ce message qui est un message de libération. Le Seigneur nous a libérés du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur ceux et celles qui sont nés de nouveau. Alléluia. Des fois, on entend, mais je n'y arrive pas. Oui, mais bats-toi. Cherche la victoire. Alléluia. Crie au Seigneur. Amen. Et toi-même, il faut que tu sois radical. Alors aujourd'hui, c'est un mot compliqué. Hein, aujourd'hui, hein, voilà, 2026, radical. Mais oui, face au péché, il faut être radical. Tolérance zéro. Le dénoncer. Que le Seigneur nous aide, hein, parce qu'on est tous sujets à cela. Moi-même, si je ne veille pas, je suis au même niveau que n'importe qui d'entre vous. Hein. Évidemment, je dois veiller sur ma vie. Et puis, le Seigneur nous fait cette grâce, vraiment, de nous revêtir. Et quand nous nous sommes éloignés, quand nous avons chuté, nous avons compris que nous nous étions éloignés de Dieu et que nous avons confessé, que nous avons péché. C'est rare, hein, d'entendre dans les prières, « Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. » C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Hein. Souvent, « Seigneur, voilà, tu connais mes luttes. Tu connais mes combats, hein, on entend des prières comme ça. Seigneur, tu connais mes luttes, tu connais mes combats. Seigneur, nous sommes dans la faiblesse. Alors des fois, il faut dénoncer certaines choses. Dire, Seigneur, aide-moi à combattre ce mal qui est là. Vous savez, des fois, le péché, il est là, c'est simplement parler derrière le dos de quelqu'un, en mal. On banalise ces choses-là. Regardez, voilà, écoutez. Certaines conversations, sans pouvoir trancher. Ça, c'est terrible, hein. Ça commence par des petites choses. Et puis, ce péché qui est là, nous devons le rejeter. Amen, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Un autre personnage qui a prêché à un moment donné dans une situation qui était difficile, c'est Élie. Élie, lui, il va prêcher la décision. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un monde indécis. Lui, Élie, il reçoit là, encore une fois, la parole de Dieu, et il vient avec un message. Et ce message, il n'est pas commun. 1 Roi 18, verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. Voyez l'image, le peuple est rassemblé. Élie est allé auprès de Dieu. Dieu lui a communiqué un message. Il vient avec ce message. Le peuple est attentif. Regardez le message. Et il dit, Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et je crois que plus que jamais, ici, donc, Élie, il prêche la décision. Aujourd'hui, décidez-vous qui vous voulez suivre. Je ne sais même pas si moi, j'aurais eu le courage d'apporter ce message. Par la grâce de Dieu, peut-être, sûrement, enfin, je ne sais pas. Donc, ce message-là, jusqu'à quand clocherez-vous? Et peut-être que c'est le cri ce matin. C'est l'appel du Seigneur pour quelqu'un au milieu de nous. Jusqu'à quand tu vas clocher? À droite et à gauche, un peu de Dieu, un peu de Baal, hein, c'est l'esprit du monde, un certain mélange en fait, c'est ça. Un certain mélange, une certaine tiédeur. Vous savez ce qu'il est dit par rapport à la tiédeur, hein, dans le livre de l'Apocalypse? C'est que le Seigneur, il nous vomira de sa bouche. Alors quand on pense à cette sanction, parce que c'est une sanction finalement, on se dit, mais comment Dieu peut vomir quelqu'un de sa bouche? C'est quoi qu'il a fait de mal? L'adultère? Il est tombé dans un péché grave? Dans l'Apocalypse, il nous a dit, c'est parce qu'en fait tu es tiède. Et nous devons veiller à cette tiédeur, parce que le chrétien, c'est quelqu'un de bouillant. Et je ne sais pas vous, hein, chacun peut donner une définition, hein, d'être bouillant pour le Seigneur. Mais moi, quand je vois quelque chose de bouillir, je le vois en action. Et quand je regarde voilà, une gazinière avec de l'eau, on fait chauffer de l'eau, il y a de l'ébullition, hein, c'est vivant. Que le Seigneur nous aide à ce que nous soyons vivants. Pas, finalement, trop dans la forme, parce que des fois, j'ai pu l'expérimenter aussi, hein. Certains dégagés, quand on les voyait, ils disaient « Waouh, super, gloire à Dieu !» Je l'avais raconté ici, hein, une personne qui était là, les yeux fermés, je la voyais à un moment donné. J'ouvre les yeux dans la louange et je vois cette personne-là dans la présence de Dieu. Et je me souviens, m'être dit « Waouh !» Là, elle est en train de vivre quelque chose de fort. Elle apporte la louange, la reconnaissance au Seigneur. Quelques temps après, elle a voulu tuer son mari. Alors c'est terrible, hein. Après, quand il faut régler ces choses-là, quand à 22h on vous appelle, je suis devant votre portail et en fait, j'ai peur, mon épouse veut me tuer. Waouh. Alors là, après, il faut régler les choses par la grâce de Dieu. Je ne sais pas où ils en sont, parce qu'à un moment donné, ils s'étaient éloignés. Et tout ça pour dire qu'on n'a aucune capacité de voir ce qui se passe. Et ça m'a permis. J'ai appris la leçon. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas me laisser avoir par les choses que je vois, en fait, dans les deux sens. Hein. Parce que des fois, on peut dire que quelqu'un est complètement déconnecté, il est pleinement en connexion avec le Seigneur. Mais dans l'autre sens, pareil, des fois, certaines personnes, on ferme les yeux, on est là, il semblerait qu'on soit dans la présence de Dieu, puis on est déconnecté complètement. Mais en fait, qu'il y ait quand même ce zèle fort, cette ébullition et de la ferveur pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Pas dans l'extravagance. Parce que des fois, on voit certaines choses. Hein. C'est terrible. Hein. Vous regardez, des fois, enfin, vous regardez, vous tombez sur les mêmes vidéos que moi. Hein. Des fois, ça saute de partout, ça gesticule, c'est même choquant, hein, voilà, à certains niveaux. Mais il y a quand même, je trouve, entre ces choses choquantes et puis avoir de la ferveur pour le Seigneur, il y a quand même un juste milieu, hein, à trouver. Et je crois que dans l'Église, dans laquelle le Seigneur nous a mis ensemble, voilà, qu'on puisse retrouver un zèle, une ferveur pour la gloire du Seigneur. Amen. Élie, lui, il va prêcher donc la décision. Se décider, c'est impératif. On le retrouve partout dans la Bible. Chaque homme que le Seigneur a appelé et lui a communiqué un message, donc avec le moment de se décider. Le contraire de la décision, hein, c'est être indécis. Quand on est indécis, on ne sait pas sur quel pied danser, ça c'est l'expression. Hein. Donc toute notre vie, en fait, elle est faite de choix. Il y a des choix qui sont mineurs. Hein. Ce matin, j'avais le choix de mettre un pantalon noir ou bordeaux. J'avais le choix ce matin. J'ai appris un pantalon, je m'étais mis un pantalon noir. Ça vous aurait causé aucun problème. Hein. Par contre, il y a des choix qui sont cruciaux. Des choix qui sont fondamentaux pour nos vies. Alléluia. Ne pas être indécis. Faire les bons choix. Et le Seigneur vient, on l'a lu ensemble, Élie vient avec le message de Dieu, mais jusqu'à quand vous allez clocher? Jusqu'à quand? Comme si, à un moment donné, on dit, ben, prends une décision. Jusqu'à quand? Est-ce que ce matin, on peut prendre conscience de cela? Quand on cloche, je réfléchissais à ça, quand on cloche un peu sur les deux pieds, ce que ça va nous amener, c'est un manque d'équilibre. Et le Seigneur, plus que jamais, ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons équilibrés en tout. L'équilibre en toutes choses. Pas de compromis, évidemment. Regardez l'appel de Dieu, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. C'est le Seigneur qui parle. Regardez le message. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Regardez le conseil de Dieu ici. Choisis la vie afin que tu vives. Et regardez la promesse. Toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Ici, il y a un principe qui est toujours valable pour chacun d'entre nous. Vous savez, le choix, le Seigneur nous propose un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Le Seigneur ne s'imposera jamais à nous, jamais, jamais, jamais. Il nous propose la vie, mais il y a la mort. Ça, c'est par rapport à l'honnêteté, on va dire. Et à la transparence de Dieu, il a pas voulu nous cacher ces choses-là. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. La seconde partie du verset est extraordinaire, mais comme c'est un cri du cœur de Dieu. Choisis la vie, je t'en supplie, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia, moi j'ai choisi pour moi. Chacun doit choisir pour lui. Choisis la vie, c'est le temps de la décision. Amen. De ne pas nous laisser avoir par le train-train de la vie. Il n'y a rien de plus terrible que le train-train. Hein. Mais de la vie, on sait, voilà, hein, le lundi, déjà ça se voit le lundi, quand on reprend les activités, quand je croise certaines personnes, j'ai dit, ah, voilà, c'est lundi. Puis le mardi, on se remet du lundi. Et puis le mercredi, on n'est pas tout à fait rétabli. Et puis le jeudi, on pense au week-end. Et puis le week-end arrive. Et puis voilà, c'est finalement le circuit. Mais que nous puissions vraiment nous décider à suivre pleinement le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais juste terminer. J'avais encore d'autres exemples. Juste terminer avec un dernier exemple d'un homme qui a prêché. Un message pas évident, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Miché. Miché, lui, il va prêcher la mort. Je vous situe juste le contexte. Hein. Donc le peuple s'égare, désobéit à Dieu, il y a des alliances qui sont faites entre plusieurs peuples. Et puis il y a certains prophètes qui sont là. Et les prophètes, ils ne prophétisent que des bonnes choses. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur va te bénir, voilà, prends les armes, vous allez remporter de grandes victoires, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, en fait. Hein. Puis lui, il reçoit la parole de Dieu, et quand ils viennent le consulter, d'abord, il donne le même message, et puis quand même, il est repris. Il dit, mais non, c'est pas correct, il faut que je donne le vrai message de Dieu. Deux Chroniques 18-27, il dit, « Et Miché dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. En fait, il est en train de dire, tu vas périr. C'est le roi Akab. Tu vas périr. Alors, imaginez-vous, quand vous allez dire à quelqu'un, ben, tu vas mourir, en fait. Ah, c'est un message qui est pas facile. Et pourtant, il va le faire. On va essayer de le dissuader. On va même, il va même, à un moment donné, prendre quelques gifles. On a lu, vous connaissez l'histoire. Hein. Puis il va rester fidèle. Il va annoncer encore ce message. Alors quand on pense à la mort, hein, que dit la Bible sur la mort? Parce que la Bible nous parle de tous les thèmes, tous les thèmes sont balayés, sont enseignés dans la Bible. Alors que dit la Bible sur la mort? La mort, c'est un grand sujet. Hein. D'ailleurs, c'est un sujet, à un moment donné, qui peut déstabiliser et même faire peur. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Hein. Alors c'est sûr que le passage crée quand même une certaine, voilà, je pense. Hein. Mais en tout cas, nous, on a une espérance dans notre cœur qui va au-delà de la mort. C'est la réalité. Un sujet souvent que l'on veut ignorer. La mort, un mot tabou. Hein. La mort, c'est finalement c'est la conséquence du péché et de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Donc, c'est la mort, la conséquence du péché. Et puis, on sait que rien n'échappe à la mort. Alors ce matin, je vais faire une grande... Je vais prophétiser une grande prophétie. On va tous mourir. Eh oui. Alors, mauvaise nouvelle, hein. Peut-être, je ne sais pas. Mais oui, tout ça pour vous dire, je le fais sous forme d'humour, c'est que nous puissions réaliser que nous sommes que deux passages ici-bas. Et qu'on doit se focaliser sur le plus important, sur ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a une éternité à passer avec le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur nous veut. Il y a plusieurs sens dans la Bible qui nous parlent de mort. Il y a la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle, appelée aussi la seconde mort. Mais Dieu, dans sa volonté, ne veut pas que l'homme meure. Le Seigneur veut qu'il vive. Ça nous parle de cette vie véritable, la vie Zoé. Il n'est pas indifférent face à la mort. Ézéchiel 18, 21. Si le méchant... Encore une fois, le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, qu'est-ce qu'il fera? Il vivra, il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Hein. Il y a différentes façons de mourir. Il y a même des versets qui disent « Heureux celui qui meurt en Christ ». Alors, est-ce que « heureux » et « mourir » dans la même phrase, ça peut cohabiter? Ben oui, parce qu'en fait, la perspective, c'est au-delà. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous avons tous ici reçu un cadeau, le cadeau de la vie? Le Seigneur nous a prêté la vie. Et à un moment donné, on devra rendre. C'est ça la mort. Mais Dieu nous donne une espérance extraordinaire. J'aime beaucoup les paradoxes de la Bible. Dans la Bible, il dit... Si tu veux vivre, il faut, vous n'osez pas le dire, il faut mourir. Pour vivre, il faut mourir. C'est l'histoire de la régénération, hein, du fruit qui tombe, de l'arbre, et de là va ressortir la vie. C'est une image pour chacun et chacune d'entre nous. Hein. On doit mourir à quoi? À moi-même. Je dois mourir avec cet ego, à cette chair. Ésaïe. Ce sera le dernier verset de la matinée. Ésaïe 25, verset 8. Regardez ce que fait le Seigneur. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Regardez la puissance du Seigneur. Il va anéantir la mort. Amen. Et c'est ça, finalement, l'éternité. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'espérance qu'il dépose dans notre cœur. Vous savez, l'espérance, c'est difficile, hein, de finalement, d'aller à l'opposé. Quand il y a l'espérance dans notre cœur, ben, ça réjouit notre cœur de savoir que, ben oui, Seigneur, voilà, à un moment donné, on pourra même peut-être essayer de nous déstabiliser, essayer qu'on puisse renier, mais on ne peut pas, finalement, parce que avec l'assurance du salut vient l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et je prie, je continue de prier, et je sais que vous le faites pour moi, et on le fait les uns pour les autres. Moi, je prie que nous tous qui sommes ici, nous allons nous retrouver là-haut pour glorifier le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur. Je prie que personne ne se perde. Et peut-être que c'est un message également pour qu'on puisse revenir au Seigneur, nous focaliser sur les réalités de la vie. Alléluia. Vous avez vu ici voilà, il y a encore d'autres personnes qui sont arrivées avec des messages aussi précis que cela, mais que nous puissions entendre ces messages. On l'a vu que les prédicateurs, c'est quelqu'un qui publie. Ce matin, j'ai publié le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur avec voilà, plusieurs thèmes. On a balayé large ce matin. Mais que nous puissions prendre vraiment considération de tout cela. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous sortons de ce lieu pareil que lorsque nous sommes rentrés. Que nous puissions dire, Seigneur, je veux apprécier la justice que tu me donnes. Seigneur, il va y avoir un jugement qui est là. Seigneur, oui, face à la mort, face également donc à prendre cette décision de marcher humblement dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, aide-nous en tant qu'Église. Alors, nous verrons la gloire de Dieu se manifester et nous serons pleins de confiance. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour cette matinée. Merci pour ta parole, cette parole qui s'est trouvée le chemin de nos cœurs. Seigneur, j'ai pu la porter, Seigneur, évidemment, dans la faiblesse, Seigneur mon Dieu, du langage humain. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui fais, Seigneur mon Dieu, ce travail dans les cœurs. Seigneur, par ton Saint-Esprit, œuvre encore à chacun d'entre nous. Ce que tu attends, c'est que nous soyons pleinement engagés, Seigneur, qu'il n'y ait pas de la tiédeur, mais que nous soyons, Seigneur, débordants de zèle pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci pour ton Église, merci pour ton peuple, merci pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour les frères et sœurs qui nous ont visités, Seigneur. À ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Seigneur, je veux te demander une grâce particulière pour la semaine qui va arriver. Bénis mes frères et sœurs là où ils sont, Seigneur, dans leur lieu de travail, Seigneur, leur famille, Seigneur, que tu puisses les utiliser puissamment, Seigneur, je t'en supplie. Donne-leur la force, Seigneur mon Dieu, afin qu'il y ait ce contraste, Seigneur, de cette lumière avec les ténèbres, Seigneur. Je te remercie parce que toutes ces choses, tu les fais, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Que ton nom soit béni. Amen.